Voici, comme chaque semaine, votre rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité des médias francophones publics. C'est l'accent des autres avec la radio-télévision suisse, France Inter, Radio-Canada, RFI et la RTBF. On va commencer aujourd'hui avec les suites de ce drame de la migration. Cette semaine, au large de Calais, 27 morts. Karine Bécard, c'est à la fois l'émotion et la colère qui dominent après ces nouveaux décès.
Oui, on compte plus de 25 000 traversées depuis le début de l'année et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Jamais la France ne laissera la Manche devenir un cimetière, a réagi immédiatement le président Macron. Il n'empêche, sur place à Calais, les mots sont extrêmement durs contre les autorités. Vous les entendrez.
Le ras-le-bol des policiers en Belgique, Sophie Brems, cela fait 2 semaines qu'ils ont entamé des actions pour demander plus de moyens et de meilleurs salaires.
Les policiers qui demandent aussi des aménagements de fin de carrière à travers des grèves du zèle sur les routes ou dans les aéroports. Les automobilistes et les voyageurs commencent tout doucement à en avoir assez.
Sur le continent africain, retour cette semaine avec vous, Amélie Tulé, sur les nouvelles révélations de la vaste enquête Congo Hold Up.
Une enquête menée en partenariat avec 18 autres médias et 5 ONG sur des millions de dollars d'argent public détournés vers des sociétés liées au camp de l'ancien président congolais Joseph Kabila.
Au Canada, cette fois, les suites de la pandémie, la vaccination des enfants a débuté dans plusieurs provinces, Benoît Audet.
Oui, c'est une nouvelle étape de l'effort de vaccination contre la COVID-19 qui est en cours. Cette fois-ci, on cible les enfants de 5 à 11 ans.
Et puis, 5e vague de COVID en Suisse, les chiffres sont alarmants comme dans d'autres pays, mais la Confédération ne durcit pas les mesures, Pierre-Anne Chauffat.
Berne préfère laisser la main aux cantons tout en les alertant sur la nécessité de préparer leurs hôpitaux à affronter le choc.
Et voilà pour le programme de cette semaine. Bienvenue dans l'accent des autres. Combien était-il au départ? Combien était-il à monter sur ce canot gonflable qui n'est jamais arrivé en Angleterre? Les sauveteurs ont retrouvé 27 corps dans la Manche cette semaine à 20 km de Calais. La pire tragédie qu'ait connue la France dans ses eaux territoriales. Parmi les victimes, 7 femmes et sans doute 3 enfants ou adolescents. Les corps des réfugiés naufragés ont été ramenés au port de Calais sous les yeux d'une 50aine de personnes, des habitants envahis par l'émotion et la colère. C'est un reportage de Maureen Suignard réalisé cette semaine à Calais.
Les visages sont graves, quelques-uns portent des pancartes pour marquer leur indignation. Au sol, des bougies ont été déposées et pendant ce temps, à plusieurs reprises, des véhicules sortent du port de Calais.
On voit des corbillards, c'est des corps, c'est des gens qui sont noyés pour 30 km.
Olivier exprime sa colère, tout comme Sylvia qui habite à 2 pas.
Ça me touche beaucoup, énormément. C'est une honte et là c'est pire, ce soir c'est pire là.
En déplacement à Calais, Gérald Darmanin assure que les premiers responsables sont les passeurs, mais c'est aussi la politique du ministre de l'Intérieur qui indigne Sylvia.
Le ministre est là, il vient ici, pourquoi faire? Il faut arrêter la violence, il faut arrêter les démantèlements, il faut leur donner une tente, il faut leur laisser leur sac de couchage. On les retient, qu'on les retient dans des bonnes conditions alors. Ou alors on met tout le monde dans le bateau une fois par mois puis on les laisse partir.
Hier soir, Londres et Paris ont convenu de l'urgence à lutter contre les traversées illégales. Il faut des actes et vite, plaide Pierre Roch, le coordinateur de l'association L'Auberge des Migrants.
Il faut surtout du courage politique, en fait. Il faut effectivement que la France et la Grande-Bretagne se mettent autour d'une table et se disent en fait comment on fait pour que les gens n'aient plus à risquer leur vie pour traverser un détroit de 30 km, une voie de passage légale en fait.
Plus de 31 000 migrants ont tenté la traversée de la Manche depuis le début de l'année, selon les autorités.
Reportage donc de Maureen Suignard pour France Inter. La police belge en a ras-le-bol. Les policiers fédéraux et locaux ont entamé une série d'actions de protestation il y a bientôt 2 semaines. Essentiellement, Sophie, pour des questions de salaire.
Oui, manifestations, barrages filtrants sur les routes, grève du zèle dans les aéroports, ça commence à durer, d'autant que ça se passe aux heures de pointe, à Bruxelles, mais aussi dans d'autres villes du pays, et les automobilistes commencent à en avoir assez.
Ça fait combien de temps, là?
1h30. Une heure et demie et là,
on est à l'arrêt.
Ils sont censés donner le bon exemple et c'est illogique, je trouve.
Le fait qu'ils bloquent la route, c'est un peu emmerdant quand même. C'est pas la bonne manière, je pense.
En tout cas, c'est comme ça qu'ils espèrent se faire entendre. Les policiers demandent plus de moyens. Ils demandent donc des aménagements de fin de carrière et surtout une revalorisation salariale qu'on leur a promis depuis longtemps.
Et on nous avait promis aussi depuis 20 ans de revoir nos échelles barémiques. On nous a promis, puis on a dit non, finalement non, oui, non, oui, non, c'est pareil.
Ah, nous irons clairement jusqu'au finish. Hein. S'il faut bloquer les frontières et mettre le pays à plat, on le fera. Hein.
Les syndicats en front commun sont manifestement prêts à aller jusqu'au bout. Une réunion s'est tenue en début de semaine avec la ministre de l'Intérieur. Elle n'a rien donné. Les actions se sont donc poursuivies, mais une nouvelle réunion entre les syndicats policiers et la ministre est prévue ce lundi.
Sur le continent africain, à présent, nous vous en donnions les grandes lignes la semaine dernière. Voici les suites de l'enquête baptisée Congo Hold Up. Une vaste enquête basée sur l'analyse de millions de documents bancaires qui ont fuité d'une banque africaine, Amélie.
Oui, la BGFI est parmi les nombreuses révélations dans le cadre de cette enquête. Retenons par exemple les fonds prévus pour les élections de 2011 et 2018. RFI et les autres enquêteurs se sont intéressés aux comptes de la commission électorale et à ceux de ses sous-traitants. Ainsi, parmi les sociétés choisies pour acheminer dans tout le pays le matériel électoral, il y a par exemple une société qui s'appelle Moderne Construction. Or, l'analyse de ces comptes pose la question de l'utilisation possible d'une partie de l'argent des élections pour construire les plus grandes tours de Kinshasa, la capitale. Ça, c'est pour 2011. Pour les élections de 2018, selon l'enquête, 3 800 000 dollars au moins ont transité via la BGFI sur les comptes de sociétés appartenant à l'ancien président congolais et à son premier cercle.
Et un nom revient dans les révélations de Congo Hold Up, Amélie, celle de la société Sud Oil.
Oui, Sud Oil, la siphonneuse du premier cercle de Joseph Kabila, titre même l'enquête. Au départ, Sud Oil est une véritable société de distribution de pétrole. Elle connaît une deuxième vie quand la famille Kabila en prend le contrôle. En résumé, elle devient une société fantôme et par le biais de facturation excessive, elle sert à faire transiter de l'argent issu des comptes de la commission électorale ou encore de la Banque centrale congolaise. Au total, selon l'enquête Congo Hold Up, 138 millions de dollars d'argent public en RDC vont circuler à travers tout un dédale de sociétés écrans pour brouiller les pistes.
Voilà, Congo Hold Up, donc cette vaste enquête collaborative réalisée par RFI et 18 autres médias, aux côtés également de 5 ONG. Les détails se trouvent bien évidemment sur le site de RFI. On notera par ailleurs que ce sont des révélations, Piran, qui conduisent aussi en Suisse.
Oui, l'organisation Public Eye, qui se bat pour l'amélioration des relations politiques et économiques entre la Suisse et les pays en développement, a collaboré à cette vaste enquête. Et la société pétrolière Sud Oil, dont vient de nous parler Amélie, a, selon ses révélations, déposé 12 millions de dollars sur un compte ouvert chez UBS à Genève en 2013. La grande banque ne commente pas, mais a su respecter strictement les devoirs qui lui incombent dans la lutte contre le blanchiment d'argent.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est désormais lancée un peu partout au Canada, près d'un an après le début de la campagne d'immunisation des personnes les plus à risque. Parmi les provinces qui ont démarré la campagne, il y a le Québec et l'Ontario. Et Benoît, au Québec, les autorités estiment que ça a très bien débuté.
Oui, des dizaines de milliers de rendez-vous ont déjà été réservés et les premières injections ont été administrées. Au total, au Québec seulement, il y a 650 000 enfants âgés de 5 à 11 ans.
Oui, le Canada fait partie des endroits au monde où le taux de vaccination est le plus élevé, mais tout de même, il y a une résistance au vaccin au sein d'une partie de la population. Et on sent, Benoît, que les autorités ne veulent pas mettre trop la pression au sujet de la vaccination des enfants.
Au Québec, du moins, si on encourage fortement les gens à se faire vacciner depuis le début de cette campagne, on sent un discours plus conciliant quand il est question des enfants. Voici le premier ministre du Québec, François Legault.
On ne veut pas là, se retrouver dans une situation où des enfants seraient stigmatisés parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, puis que les autres enfants commencent à dire « ben toi, tu n'as pas été vacciné ». Regardez, là, c'est un choix personnel. Il faut prendre le temps qu'il faut puis se sentir à l'aise.
Selon une étude de l'Institut national de santé publique du Québec, près de 30 % des parents d'enfants de 5 à 11 ans seraient réfractaires à l'idée de les faire vacciner.
Et il ne restera donc qu'une partie de la population à vacciner au Canada, les enfants de moins de 5 ans.
Oui, l'administratrice en chef de la santé publique au Canada, la docteure Teresa Tam, a laissé entendre que le feu vert pourrait être donné au début de 2022. Ce sont donc les enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui pourraient recevoir une première dose.
Oui, et à propos de la vaccination, ça s'accélère aussi en France. Karine, on pousse de plus en plus les personnes majeures à se faire vacciner.
Les choses sont en train de s'accélérer. Tous les adultes de plus de 18 ans, donc, vont devoir recevoir leur troisième dose 5 mois après la seconde, avant le 15 janvier prochain. Sans ce rappel, eh bien, les passes sanitaires des Français seront désactivés.
Et puis on notera que côté belge, les autorités mettent aussi davantage encore le paquet sur la campagne de vaccination. Plusieurs mesures ont également été annoncées ce vendredi au vu des mauvais chiffres et elles entrent en vigueur dès cette fin de semaine. Pour l'essentiel, fermeture à nouveau des discothèques et fermeture des bars et restaurants à partir de 23h pour réduire les contacts sociaux. Et puis en Suisse, cette fois, les nouvelles contaminations poursuivent aussi leur hausse inexorable. Et pourtant, Pierre-Han, le gouvernement l'a confirmé cette semaine, pas de nouvelles restrictions sanitaires pour l'instant.
En moyenne nationale, la cote d'alerte n'est pas atteinte. Selon la Confédération, c'est au canton d'agir, particulièrement ceux où l'incidence est très élevée en termes de nouvelles contaminations. Cela va en effet du simple au triple selon les régions. Pour la responsable vaudoise de la santé, la retenue de Berne peut se justifier. Rebecca Ruiz.
Il n'y aura pas d'uniformité entre les cantons, mais on est dans des mesures qui, jusqu'à maintenant, ont toujours été un peu différentes, hein, en fonction évidemment aussi des sensibilités, des contextes locaux. Et je pense que ce type de mesures différentes, à ce stade, sont comprises par la population.
Reste qu'une bonne partie des cantons auraient préféré laisser la main à la Confédération pour décréter des mesures impopulaires.
Oui, justement, alors Pierre-Han, de quel ordre sont ces mesures ?
La promotion de la vaccination, encore et toujours, y compris de la troisième dose de rappel qui doit bientôt être élargie au moins de 65 ans. Et puis le port du masque rétabli dans les écoles ou même à Genève, partout à l'intérieur, en plus du pass sanitaire, comme vous l'avez déjà fait en Belgique.
Donc, pas de fermeture, pas de confinement comme en Autriche.
Non, plutôt un appel à la responsabilité de chacun, respecter les gestes barrières, éviter les bains de foule pour que le système hospitalier puisse faire face. Or, le président de la Confédération a écrit aux cantons pour qu'ils préparent leurs hôpitaux à une explosion des cas et donc planifient un report des opérations non urgentes car faute de personnel, ce sera compliqué d'augmenter l'offre. Philippe Eckert dirige l'hôpital universitaire vaudois.
On a des équipes fatiguées, certaines épuisées, avec un absentéisme qui fait qu'on ne peut pas ouvrir toutes nos structures. On n'a pas la flexibilité qu'on avait, par exemple, lors de la première vague il y a une année.
Une période d'incertitude donc, où les autorités tentent de prendre les bonnes mesures au bon moment, avec le risque toujours d'intervenir trop tard.
Pierre-Han Chauffat pour la Radio-Télévision Suisse. Merci à vous et merci à tous les contributeurs. C'était l'actualité des médias francophones publics, l'accent des autres avec les partenaires que sont Radio-Canada, RFI, France Inter, la RTBF et la Radio-Télévision Suisse. On se retrouve bien sûr, comme d'habitude, si vous le souhaitez, la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.